Deutsche Welle, Économie et développement.
L'euro a été la réponse européenne à la domination du dollar américain. 14 ans après son introduction, il s'est imposé comme la deuxième monnaie la plus importante dans les échanges internationaux. L'euro représente aujourd'hui un quart des réserves mondiales de change. Toutefois, la crise de la dette en Europe a montré que l'euro est loin de bénéficier du même potentiel de confiance que son cousin américain. Nous allons tenter de comprendre ce qui les différencie. Bienvenue dans votre magazine Économie et Développement. Au micro, Sébastien Martin. La récente crise politique aux États-Unis qui a vu le président Barack Obama obtenir à la toute dernière minute un accord pour éviter le mur budgétaire a porté un nouveau coup au dollar face à l'euro. Ce mur budgétaire est en fait une disposition qui prévoit, en cas de dérapage des comptes publics américains, des mesures automatiques, incluant des hausses d'impôts pour la quasi-totalité des contribuables et des coupes claires dans les dépenses de l'État fédéral. Malgré le soulagement consécutif à l'accord au Congrès, le dollar reste relativement faible, à plus de 1,30 $ pour 1 euro. Pourtant, quasiment personne n'aurait l'idée de parier aujourd'hui sur un effondrement de la monnaie américaine ou sur une disparition du dollar. Des éventualités qui ont en revanche été évoquées pendant des mois à propos de l'euro. Si un danger immédiat semble écarté pour la monnaie européenne, grâce notamment à l'action énergique de la Banque Centrale Européenne, l'OCDE, entre autres, continue de penser que la zone euro est fragile. Alors, question, que possède le dollar que n'a pas l'euro ? Beaucoup de choses, nous dit Achim Wambach, directeur de l'Institut pour la politique économique de l'Université de Cologne. Et tout d'abord, le dollar s'appuie sur un gouvernement central fort.
Une grosse partie du budget fiscal passe par Washington et non par les États fédérés séparément.
L'Union monétaire européenne, elle, n'est pas couplée à une union politique. Le budget de toute l'Union correspond à seulement 1% du produit intérieur brut des États membres. Et même la zone euro, le groupe des 17 pays ayant en partage l'euro, n'a pas de budget commun ni de stratégie économique commune. Par ailleurs, des liens très forts existent entre les banques de la zone euro et les États. C'est une faiblesse supplémentaire pour l'eurozone. Les exemples de l'Irlande et de l'Espagne notamment montrent que les banques et les États sont financièrement tellement liés qu'ils se sont entraînés les uns les autres dans la crise. À en croire Clemens Fust, spécialiste de la finance, c'est là l'un des principaux défauts de construction de la zone euro, ne pas avoir adapté le système financier à la nouvelle réalité que représente une union monétaire.
On aurait dû faire en sorte que, dans ce contexte d'union monétaire, il soit possible qu'un État soit déclaré en faillite, qu'il puisse y avoir une annulation de dette. Et pour cela, il faut que les banques soient assez solides pour supporter cette annulation de dette. Elles auraient dû avoir plus de capital propre.
Aux États-Unis, selon Achim Wambach, on ne trouve pas de banque qui soit dépendante d'un État fédéré en particulier.
Si la Californie est en faillite, les Californiens ne doivent pas avoir peur de voir leur épargne en souffrir, car cette épargne n'est pas dans une banque californienne, mais dans une banque américaine.
Cela explique aussi l'absence d'un risque d'effet domino entre les États américains. Si le Minnesota est dans le rouge, le Michigan n'est pas affecté. Dans la zone euro, chaque crise touchant un pays est potentiellement un danger pour le reste des pays membres. C'est pourquoi la règle inscrite dans les traités européens qui interdisait d'intervenir pour venir en aide à un État membre en difficulté budgétaire a été systématiquement ignorée. Les États les plus vertueux, si l'on peut dire, en termes de comptes publics, avaient trop peur que la faillite de la Grèce ou de l'Irlande n'entraîne la faillite des banques qui possédaient de la dette émise par ces États, y compris des banques allemandes ou françaises, ce qui aurait mis en difficulté toute l'économie de ces mêmes pays car leurs entreprises n'auraient plus eu la possibilité d'emprunter de l'argent, ce qui est vital à leur activité. Conséquence de ces interventions et de ces plans d'aide, la responsabilité de chaque État vis-à-vis de ses propres finances publiques est diluée. Car en cas de grave difficulté, il sait qu'il pourra compter sur l'aide de ses voisins. Aux États-Unis, chaque État fédéré doit gérer ses propres dettes. S'il se retrouve en situation d'urgence et ne peut plus faire face à cet endettement, il est obligé de mettre en place des mesures de rigueur. Il y a par exemple un dispositif automatique qui empêche les nouvelles dépenses, comme en Californie, explique Achim Wambach de l'Université de Cologne.
Pendant la crise, nous avons vu que dans les universités, nos confrères ont dû prendre des vacances prolongées. Les salaires ont été réduits.
Autre mesure qui doit servir à maintenir la discipline budgétaire aux États-Unis, l'effacement annuel des dettes auprès de la Réserve fédérale. Cela implique que les États fédérés ne peuvent pas avoir un compte négatif auprès de la Fed à la fin de l'année. Et cela doit empêcher qu'ils ne se servent trop souvent de la planche à billets. En effet, la Réserve fédérale, c'est la banque centrale américaine. Au moment de la construction de la zone euro, un tel mécanisme n'a pas été prévu. Pendant la crise, on a ainsi vu se creuser de forts déséquilibres dans les comptes des banques centrales des 17 États membres auprès de la Banque centrale européenne. Et si aujourd'hui les États les plus solides de la zone demandaient à ce que les comptes soient remis à zéro, cela entraînerait immanquablement le naufrage de l'union monétaire. Toutefois, on n'en est pas là et la BCE a joué un rôle déterminant en 2012 pour rétablir un peu de confiance dans la zone euro. L'été dernier, son président Mario Draghi a promis de tout faire pour sauver la monnaie unique, à commencer par des rachats de dettes souveraines en grande quantité. Mais la BCE ne dispose pas des mêmes moyens que la Réserve fédérale américaine ou la Banque d'Angleterre pour soutenir le dollar et la livre sterling. Surtout, elle n'est pas aussi souple dans la prise de décision.
La BCE reste une institution fédérale portée par 17 banques centrales. Elle n'est pas une banque centrale libre d'agir par elle-même. C'est pour cela que l'euro reste fragile.
C'était David Marsh, expert des banques centrales, pour la conclusion de ce sujet préparé par notre collègue Zhang Danhong. Mais on n'a pas fini de parler de la zone euro. Pour cela, bien sûr, le meilleur endroit, c'est Carrefour Europe, que vous retrouvez le vendredi à 12h40 et le samedi à 17h10 environ. Temps universel sur la Deutsche Welle. C'est le moment de l'interview de la semaine. Notre invité est Frédéric Vöringer, chargé du développement international à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Aquitaine, en France. Au micro d'Abilinda Ebindamboko, il exprime son optimisme quant à l'évolution des relations commerciales avec les pays africains. On l'écoute.
Nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine persuadés que l'Afrique est un marché d'avenir. Et il y a d'ailleurs entre l'Aquitaine et notamment la ville de Bordeaux et l'Afrique des relations de longue date, qui sont des relations institutionnelles mais aussi des relations commerciales. Maintenant, aujourd'hui, il y a encore pas mal de travail à faire pour convaincre les entreprises françaises que l'Afrique est le continent de l'avenir et le continent où ça vaut le coup d'investir. Alors nous, on s'attelle à ce travail. On a organisé plusieurs années de suite une convention qui s'appelle Africa-France Business Meetings et qui s'est tenue à Bordeaux en 2009, 2010 et 2011 et qui avait pour but de faire se rencontrer des entrepreneurs africains et des entrepreneurs français, et notamment aquitains, pour pouvoir mieux se connaître et pour pouvoir établir des relations commerciales. Et au-delà de ça, en s'appuyant sur le club d'entreprise Bordeaux-Afrique, qui s'appelle le CBSOA, nous organisons régulièrement des missions d'affaires qui ont pour but, là aussi, de permettre de créer des contacts et des partenariats commerciaux entre entrepreneurs africains et français. Et nous pensons que c'est par ces actions de terrain que nous pourrons faire évoluer dans les milieux économiques français l'image de l'Afrique.
Alors, qu'est-ce qui peut intéresser plus spécialement les entrepreneurs français en Afrique en ce moment?
Alors, naturellement, effectivement, pour des questions de langue et de culture, les entrepreneurs français ont tendance à s'intéresser à l'Afrique francophone. Et c'est vrai qu'il y a des opportunités qui ne sont pas uniquement dans les secteurs traditionnels que pourrait être, que sais-je, le bois au Cameroun, par exemple, mais aussi dans des secteurs comme les technologies de l'information et de la communication ou des logiciels qui sont en particulier en français et peuvent être utilisés en Afrique. Donc, naturellement, il y a de la part des Français un intérêt pour l'Afrique francophone, sachant qu'il peut y avoir des soubresauts politiques, mais qu'aujourd'hui, par exemple, si on voit la maturité avec laquelle la transition s'est finalement faite au Sénégal, il est clair qu'aujourd'hui, les entrepreneurs français s'intéressent à nouveau de manière précise au Sénégal, et puis bien sûr à côté en Côte d'Ivoire, qui a enfin atteint la stabilité. Maintenant, nous, notre travail est aussi de montrer aux entrepreneurs français, notamment aquitains, qu'il n'y a pas que l'Afrique francophone et qu'il y a d'autres zones de l'Afrique qui sont en forte croissance, où il y a des opportunités pour les entreprises françaises, des opportunités de partenariats commerciaux. Nous avons ainsi organisé, il y a 2 ans, une mission d'affaires en Angola. L'année dernière, nous avons emmené, en mars de l'année dernière, 10 d'entreprises en Afrique du Sud. Et cette année, en collaboration avec le club d'entreprises Bordeaux-Afrique, nous organisons une mission en Éthiopie et à Djibouti. Donc vous voyez bien qu'avec l'Éthiopie, avec l'Angola, avec l'Afrique du Sud, il y a 3 ans avec le Nigeria, nous amenons les entrepreneurs français et aquitains sur d'autres terrains que l'Afrique francophone.
Donc on peut dire, pour nous résumer, que 2013 sera une très très bonne année pour les entrepreneurs africains et français qui vont davantage coopérer.
Tout à fait, à condition qu'on puisse aller au-delà de certains stéréotypes. C'est vrai, par exemple, que des fois l'Afrique souffre d'une image de difficulté à se faire payer. Or, quand on interroge des exportateurs français qui vont sur l'Afrique, ils vous diront qu'ils ont beaucoup moins de défauts de paiement sur l'Afrique que sur la France, par exemple. Mais sans doute parce qu'ils sont plus prudents, connaissant le contexte qui peut être compliqué, ils sont plus prudents sur les modalités de règlement. Mais aujourd'hui, il peut être tout aussi sûr, voire même plus sûr, de commercer sur l'Afrique que dans son propre pays.
C'était Frédéric Voringer, chargé du développement international à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Aquitaine. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. C'était Sébastien Martineau au micro avec Abilinda et Binda Mboko. Si vous voulez réécouter ce magazine, c'est simple, il suffit de vous rendre sur notre site internet www.dw.de/français et c'est dans la rubrique podcast. À la semaine prochaine et d'ici là, surtout restez à l'écoute de la Deutsche Welle.